Bon, au cours de cette retraite, on va brasser pas mal de différents sujets, mais peut-être en demandant, en entrant dans cette retraite avec le Saint-Esprit, de lui demander qu'au cours de la retraite, peut-être le principal, c'est que quelque chose, même si c'est pas beaucoup, puisse nourrir notre esprit, c'est ça qui est l'important. Certainement pas besoin d'écrire quelque chose ce soir. C'est simplement quelques réflexions pour entrer dans cette retraite. Et la première des réflexions, alors là, qui est peut-être que vous allez contester, peut-être, c'est une impression que moi j'ai eue quand j'étais à l'hôpital. C'est que j'ai reçu beaucoup de coups de téléphone et des uns des autres de la famille de la Sainte Trinité pour demander comment ça allait. Mais ma famille, il n'y a rien. Et ça m'a marqué quand même de ne pas recevoir de ma famille humaine, même simplement savoir comment ça va, quoi, c'est tout. Et c'est à partir de ça que je me suis dit... nous avons bien sûr une famille humaine, et chacun de vous mariés qui avait des enfants, cette famille humaine compte beaucoup, bien sûr. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression qu'une famille humaine nous enferme aussi d'une certaine façon. Et je trouve que la famille de la Sainte Trinité est une famille réelle, une famille qui a... Bon, dans le Christ, ça ne veut pas dire que vos familles aussi ne sont pas... C'est pas minimiser le rôle d'une famille, mais il me semble que notre famille, ici, de la famille de la Sainte Trinité, c'est un don qui nous ouvre à l'universel, quelque chose qui dépasse la chair, qui dépasse ce que de temps en temps j'entends, mais c'est pas vrai pour tout le monde, mais que j'entends que certaines familles tourneront autour de leurs préoccupations, de leur, si vous voulez, sans que vraiment ça s'use. Alors, tant mieux que pour vous, le Seigneur vous donne la grâce dans votre famille de s'ouvrir. Mais je crois que notre famille franciscaine est faite, elle est née d'abord dans cette grâce de l'Esprit qui nous ouvre à une plus grande ouverture et qui dépasse la chair, qui est déjà quelque chose de l'avion Christ qui nous anime tous. Le Christ nous a ouvert à l'universel et nos préoccupations, même entre nous, nos préoccupations, bien sûr, sont des préoccupations du monde, parce que vous restez dans le monde, mais dans ce monde-là, il s'ajoute d'autres préoccupations. Il y a par la prière, ce qui n'est pas évident dans beaucoup de familles humaines. Il y a par la prière, il y a l'ouverture, même à la communion des saints, une ouverture beaucoup plus grande, une sensibilité plus grande encore, aussi à la vie du monde. Alors notre famille, voilà, j'avais pensé à cela. Maintenant, vous pouvez dire si oui ou non, quoi. Une fois de plus, c'est pas pour minimiser la famille humaine, quoi. Maintenant, je sais pas quelle est votre opinion là-dessus. De toute façon, notre famille a pour but de mieux nous faire vivre notre vocation de chrétien en ce monde. Et quand nous nous retrouvons, d'une certaine façon, c'est l'Église qui nous accueille. C'est-à-dire que dans notre famille humaine, la structure même, la profondeur de notre famille, c'est l'Église. L'Église avec tout son mystère, avec le corps du Christ, les réunions qui ont lieu de temps en temps ici sont tellement des relations humaines que ça se termine par la bouffe, par beaucoup de choses de ce genre. Pour nous, les relations les plus profondes, c'est le corps du Christ qui nous anime. C'est ça la structure la plus profonde de notre famille. Et être chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? J'ai entendu très souvent quand, dans le ministère de l'exorcisme, des gens dire « Oui, je suis chrétien, je prie ou je sais quoi. » En quoi sont-ils chrétiens ? Quelqu'un qui n'est pas nourri du Christ, quelqu'un qui ne participe pas à l'Eucharistie dominicaine, en quoi vraiment on peut dire que, ben oui, moi je suis chrétien. Est-ce que c'est vrai d'être chrétien dans ces cas-là ? Quand on regarde Saint Paul, quand on regarde, est-ce que, en disant, j'entends, je suis chrétien, mais
je ne pratique pas.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, souvent, ça me pose une question. Enfin, ça me met un peu en colère, ça. Être chrétien sans pratiquer, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme quelqu'un là qui est
auquel on offre une nourriture ou une boisson et puis qui n'en veut pas. Mais ça, c'est une comparaison trop simple. Mais être chrétien, c'est quelqu'un qui non seulement pense comme ça, qu'il y a quelque chose au-dessus de notre tête, etc., mais c'est quelqu'un qui se nourrit de la vie du Christ. C'est quelqu'un qui participe par les sacrements. Si le Seigneur a institué l'Église, une communauté vivante à laquelle nous appartenons, c'est pour que réellement nous vivions de lui-même, de sa vie, de sa profondeur. Et alors, beaucoup de gens pensent pourquoi aller à l'Église. Moi, j'ai remarqué souvent, enfin, vous l'avez remarqué, on ne va pas à la messe simplement pour aller à la messe. Combien de fois j'aurais dit ça? Mais on y va pour se nourrir du Christ, pour vivre du Christ. Et c'est là que notre famille franciscaine, notre famille à nous, est une famille qui est insérée dans le Christ, qui vit du Christ, nous l'avons fait encore tout à l'heure, et qui vit donc de l'action de grâce, qui se nourrit des sacrements, avant tout qui se nourrit des sacrements. Parce que les gens peuvent dire « je prie ». Bon, je veux bien que tout le monde prie. D'abord, on se demande souvent d'ailleurs « qu'est-ce qui prie ?» Mais nous ne sommes pas des gens, nous sommes des gens qui prions de la révélation qu'ils nous ont donnée dans l'Église, de la prière de l'Église. Si nous croyons, nous ne croyons pas par notre foi personnelle, nous croyons de la foi de l'Église. Comme des fois aussi, j'ai eu cette occasion de le dire, c'est pas ma foi, moi, qui me fait vivre, c'est la foi de l'Église qui me fait vivre. Et ça, c'est d'une importance considérable, puisqu'à ce moment-là, on peut dire que vraiment, on est des chrétiens, et que à ce niveau-là, notre famille à nous, c'est une famille qui est insérée dans l'Église, et qui est réellement insérée dans l'Église, pas uniquement parce qu'il y a un évêque qui en fait la structure, et c'est pourtant fondamental, mais avant tout, c'est parce qu'elle nous aide, autant qu'elle peut nous aider, à vivre vraiment en tant que chrétiens qui vivent du Christ, qui se nourrissent du Christ. Voilà, c'était la première des choses. Et c'est donc avec ces sentiments-là, de reconnaissance de ce que le Seigneur a fait entre nous, avec nous, et pendant 30 ans. Pendant 30 ans, nous avons, dès le départ, essayé de cheminer ensemble, hein, pour comprendre le mystère de l'Église, pour comprendre les liens qui nous unissent. Les liens qui nous unissent sont des liens extraordinaires, Et ce sont des liens, je crois, beaucoup enfin, puissants au point que ça nous ramène à une communion jusqu'à l'universel. Nous étions 28. Alors, j'ai apporté, et vous verrez ça, c'est extraordinaire de revoir les photos. Je les ai apportées. Vous pourrez les consulter. J'en ai, je ne sais plus combien de qu'on a mis, je ne sais pas, dans, il y en a 5 ou 6, je crois bien. Alors, qui chevauchent. Et nous voir tous 30 ans en arrière. Voir nos visages, voir, et de se rappeler, tiens, tel, etc. Quand j'ai revu tout ça, je me suis dit, mon Dieu, que c'est extraordinaire. Être resté 30 ans ensemble, hein, avoir cheminé 30 ans ensemble, il y en a combien comme ça, d'un groupe, qui peut se dire qu'il a eu cette vie ensemble, cette fidélité. Faisons mémoire de l'évêque Albert-Marie de Montléon, et qui a fondé Limoges, qui a fondé pour la foi Limoges notre famille en octobre 94. Et vous verrez, j'ai retrouvé les trois comptes rendus des trois journées fondatrices avec toutes les photos. Aujourd'hui, quatre amis sont partis en paradis. Le père Pierre Moreau. Vous vous souvenez du Pierre Moreau? Ensuite, Odette Brézard. Louis Cotteret. Madeleine Prévost. Oui. Oh, quelle sainte femme, Madeleine Prévost. Et j'ai perdu la trace Isabelle, des autres, je ne sais pas.
Isabelle Chevial,
c'est la dernière, je crois.
Hein, c'est Clossis. Il
n'y
a pas longtemps qu'elle est décédée.
Bon, il faut les noter aussi.
Dans le tout début, pendant en arrière... Les
charpentiers, quand même. Oui. Ah oui, les charpentiers aussi.
Oui. Au tout début, à la Thébaïde.
Lui, il était au tout début, Charles. Au tout début. Vous voyez. Mais je crois qu'ils ne sont pas sur les photos, par contre. Vous
non, parce que c'est très ancien.
Ah oui, c'est ça, oui.
Il n'y avait pas d'appareil photo à cette époque-là.
Bah si, c'était au début qu'on était à la Thébaïde.
Le premier numéro de la Mandy a paru pour l'avant 2000.
Et avant, il y avait un autre journal.
Alors, et auparavant donc, soit 6 ans après la fondation. Et entre-temps, il y avait des feuilles de prière qui relataient la vie. C'était essayer de faire prier les jeunes. Vous vous souvenez à l'époque le nombre de jeunes qu'il y avait? C'est incroyable tout ça, se rappeler ça.
Les vacances spirituelles.
Il faudrait du temps pour faire toute cette histoire de la famille de la Sainte Trinité elle-même. Peut-être qu'un jour quelqu'un la fera, l'histoire de la famille de la Sainte Trinité. Eric a assez de documents pour ça.
Un coup de...
Le sens de la mémoire.
D'ailleurs, on en parlera, j'espère, mais peut-être faudra-t-il s'occuper de savoir quand même qu'est-ce que sera effectivement tous ces documents que nous avons, où est-ce qu'ils pourront être stockés? Est-ce qu'il y a aussi l'avenir? Enfin, on le verra. Je ne sais pas quand le Seigneur me rappellera, mais il y aura quand même une suite. C'est des choses qu'il faudrait peut-être s'occuper quand même à un certain moment pour la famille. On pourra peut-être y penser, on pourra y penser ensemble, peut-être, de tout ça. Et donc, nous avons, ce serait dommage de, que deviendra aussi ce trésor. Il y a eu un trésor pendant toutes ces années de réflexion dans l'Amandier, de travaux qui ont été faits. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Et alors, tout ce trésor, bon... Est-ce qu'un jour, il pourra servir d'une autre façon qu'il a déjà servi? Mais où et comment on pourrait le conserver? C'est pas évident, ça, cette question. Et je crois que c'est une question qui pourrait peut-être, qu'on pourrait débattre, mais je sais pas, à un certain moment entre nous. Voilà, conserver la mémoire de tout ce que... Bien sûr, on ne peut pas conserver, on ne peut pas s'amuser à conserver la mémoire de tous les bienfaits reçus, mais il y a quand même, dans l'Amandier, je trouve des recherches, un trésor. Alors, mon travail de retraite à moi, au cours de cette retraite, sera, bon, de nous élever au-dessus de la famille de la Sainte Trinité, pour relire d'une certaine façon aussi le trésor duquel aussi nous vivons, qui est le trésor de la famille franciscaine elle-même à laquelle nous appartenons. Là encore, c'est le trésor d'un charisme extraordinaire, qui est le charisme de François. Et un charisme tel qui a tellement marqué la famille que elle a cheminé et elle a produit de la grâce, elle a produit de la grâce, elle a produit des travaux tout à fait extraordinaires, quand on pense à Saint Bonaventure et tant d'autres. Alors, relire une histoire, c'est... Il y a un côté de l'histoire qui est difficile à lire, parce qu'on passe simplement par des dates. Hein. Quand on fait de l'histoire, parfois, c'est peut-être pas très facile, bien sûr, parce qu'il y a des événements au fur et à mesure du temps. Mais quand on les relit avec le sens qui nous amène à ça, relire la famille franciscaine qu'on fera demain, c'est relire un charisme qui a transformé la vie de communauté, qui, à cause du charisme, on le verra très bien, ont voulu lutter contre toutes les formations possibles, les déformations possibles. Il y a donc, quand on relit une histoire, c'est comme quand on relit l'histoire catholique, enfin pas catholique, chrétienne, avec le Christ, c'est relire la puissance de celui qui a reçu un charisme et qui l'a donné aux autres et qui l'a transmis aux autres. Le charisme de Jésus, ben, c'est la vie éternelle. Le charisme de François, on le verra, si vous êtes d'accord, il y a peut-être différentes façons de l'apprécier, ce charisme de François. Mais je crois que c'est un charisme qui s'exprime d'une certaine façon dans « commençons, nous n'avons pas encore commencé ». Une force intérieure de renouvellement sans fin. Et cette force de renouvellement, elle a bouleversé les différentes façons d'essayer de le vivre. On verra les problèmes qu'il y a eu avec une communauté qui en a accepté un aspect nécessaire, parce qu'il fallait que ce charisme s'intègre dans le monde et donc amène automatiquement un charisme quand il s'incarne, il est obligé d'accepter des conditions, des aménagements nécessaires à l'intérieur du monde. Donc automatiquement, ça provoque des questions pour ceux qui le veulent plus pur. Ben, ça a été la famille, ça a été la grande force de la famille, de dire on ne va pas s'arrêter à un certain moment, mais des gens se lèvent et ça recommence. Et alors la famille veut les étouffer, et on voit au fur et à mesure des siècles que non, ça se poursuit et ça vient jusqu'à nous. Et d'une certaine façon, ben, nous vivons de ce charisme dans lequel nous sommes inscrits. On peut dire simplement que cette famille de Saint François a merveilleusement enrichi l'Église du Christ. Elle s'est répandue dans tous les pays du globe. Mais quand on pense à ça, c'est absolument extraordinaire qu'un bonhomme comme François ait pu avoir une telle puissance ensuite pour une expansion à travers tout le monde, d'un petit bonhomme de rien du tout, qui en fait a vécu quoi ? Une union profonde, et on voit la puissance de ce charisme qu'il a reçu et qui vient jusqu'à nous. C'est une épopée extraordinaire que l'épopée franciscaine dans le monde. Il faudrait s'émerveiller, moi j'ai pas eu le temps de le faire, ça. Par exemple, la vie de tous les missionnaires. La façon de tous ces gens qui ont, à cause de François, qui ont été capables de pouvoir transmettre le charisme chrétien dans le monde, de ceux qui ont témoigné jusqu'au don de leur vie. Là, bien sûr, il faut, ce serait un très gros travail de rappeler tous ces missionnaires, mais que tous qui ont donné, toujours animés par ce même, par le Christ avant tout. On va pas mettre le François devant, mais François était un de ceux-là qui les a permis de pouvoir vivre le Christ. La famille franciscaine a donné des saints et des saintes par la consécration de leur vie, mais aussi aujourd'hui. C'est pas une histoire du passé, c'est une histoire qui se poursuit. Notre famille anime des saints et des saintes dans ce monde d'aujourd'hui. Jean-Louis va nous présenter un mystique de la famille capucine, Benoît de Campfield. Et à chaque retraite, nous présentons des thèmes de réflexion qui sont nécessaires pour nourrir le mystère chrétien. Alors, on va recevoir par Jean-Louis, qui a fait un travail considérable. Parce que c'est une thèse, je crois, qui t'a donné des sueurs.
J'ai même pas pu rendre compte de tout, parce que c'est trop riche. Donc j'ai fait en sorte qu'on puisse appréhender ce qui me semble le plus important. Mais c'est énorme,
oui. Mais là encore, c'est l'intérêt de cela, c'est quand même on est en présence d'un mystique, là aussi.
Oui, mais à l'origine, on en parlera, mais l'originalité de ce mystique, c'est en quoi il est bien un mystique franciscain, c'est que il ne faut jamais oublier les choses, les petites choses. Parce que Dieu, en fait, se glorifie dans les petites choses, dans les choses qui... le travail manuel, une régularité dans la prière, etc. Donc, et en même temps, lui, il a eu des extases et tout le bazar. C'est pas ça qui l'intéressait. Il n'aimait pas en parler des extases. Il voulait parler de ce qu'implique une vie chrétienne. C'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une vie chrétienne? Et alors lui, il a été touché profondément par François. Voilà, comme tout ça dont tu parles.
C'est un calanite.
C'est un.
En quelle année?
Alors, c'est quelqu'un qui a vécu, disons, dans la deuxième moitié du XVIe siècle et ensuite au tout début du XVIIe. Et alors, il a eu une influence énorme sur la vie mystique en France.
À l'époque. Oui.
Et c'est lui, par exemple, on en parlera, je m'arrête, mais qui a permis la première installation du Carmel en France.
Et c'est un capucin.
C'est un capucin.
Ah ouais.
Madame Macari, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ben voilà, c'est Premier Carmel, c'est Madame Macari. Et il l'a conseillé tout à fait pour arriver à fond des coins. Voilà.
Alors, à ce point de vue-là, ce qui est étonnant aussi dans la famille franciscaine, c'est comment les frères et les sœurs ont pu aider. D'autres spiritualités, d'autres familles, à les faire naître.
Saint-Pierre de Cantaran, on avait été.
Ah oui.
C'était aussi un franciscain. C'est fou.
Alors, il est certain que retracer la famille de la Sainte Trinité en une heure, c'est pas grand-chose, mais essayer de faire sentir que la force d'un charisme qui renouvelle les vies. Moi, c'est ça que j'ai ressenti profondément en lisant les siècles, les discussions qui ont pu avoir lieu et qui a certainement ont scindé un d'eux, la famille de la Sainte Trinité, la famille franciscaine, avant d'en arriver même jusqu'à Léon XIII pour accepter que la famille puisse avoir des branches. Mais ça, avant d'accepter ça, il a fallu passer par de grandes bagarres. Alors maintenant, je voudrais poser la question, quelle est donc la place à l'intérieur de ça? Parce que c'est une question qui se pose, à mon avis, la place de la famille de la Sainte Trinité dans la grande famille, dans la grande famille franciscaine. Premièrement, notre famille est reconnue comme faisant partie de l'Église. Elle est reconnue par ses statuts. Donc, elle a une existence canonique. Elle est reconnue par le mystère de l'évêque. Mais elle reste jusqu'à ce jour non reconnue par la famille franciscaine. Alors que, il y a une petite question là, je trouve, alors que, par exemple, nous partageons cette situation, d'abord, premièrement, nous partageons cette situation avec beaucoup de groupes qui, en ce moment, se réclament de Saint-François, mais qui ne sont pas partis, si on veut, de l'ordre franciscain. Alors, nous partageons déjà cela, que ce sont des groupes de spiritualité franciscaine, de Saint-François, ils se réclament à Saint-François sans une appartenance canonique à un ordre. Mais il y a encore d'autres groupes qui sont reconnus et qui ont une reconnaissance canonique, mais non franciscaine. C'est par exemple la communauté de l'agneau de Clavilla.
Dominicaine. Ils sont reconnus par la famille dominicaine.
Dominicaine.
Une branche.
Mais pas par la famille franciscaine, alors qu'ils sont franciscains.
Il y a une spiritualité, mais ils sont reconnus en tant que branche de la famille dominicaine.
Oui, à l'intérieur de la famille dominicaine. Oui. Mais ils ne sont pas reconnus pour nous, alors que les fondateurs, le fondateur c'est un franciscain, et ils ont une spiritualité franciscaine.
Il y a quand même eu l'affaire, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, que Dominique aurait proposé à François de venir.
Oui, voilà.
Oui, oui, oui. C'est ça.
Dans la vie de François, il y a eu cette rencontre.
C'est François qui n'a pas voulu.
Oui, il n'a pas voulu.
Dominique aurait voulu.
Il a senti que son charisme n'était pas celui de Dominique.
C'est pour ça que les Dominicains s'appellent les frères prêcheurs, voilà. Et les franciscains les frères mineurs.
Ouais. Voilà. Je m'en rappelle plus de
ça. Oui, c'est important.
C'est au chapitre des notes, quand ils passent les voir.
Comment
ça s'est passé?
Je ne sais pas exactement.
C'est quand ils regardent
les gens. Il y a eu une rencontre particulière entre les deux.
Oui, ils ont une rencontre personnelle.
Ah, d'accord, voilà. En plus.
Je crois que c'est au Concile de la Trente. Je ne veux pas dire une bêtise, mais...
Oui, c'est vrai. Ça,
c'est au Concile de la Trente.
À la Trente, oui.
J'ai le tonton.
Et alors, ce qui est étonnant, justement, dans la Fondation des Sœurs de la Vie, c'est des sœurs dominicaines traditionnelles qui ont été impressionnées par ce qui vivait à la Cordelle.
Oui.
Et alors là,
c'est des réfugiés en 1968, là.
Voilà.
Et on a dédiqué ça, il faut les devenir là.
Si on veut. Et une fois que ça avait beaucoup intéressé Maurice Clavel, qui habitait là. Mais. Bon, pardon.
Mais je crois qu'il y a aussi d'autres groupes. Mais qui font partie quand même, ils sont reconnus, je pense. Les marcheurs, là, comment ils s'appelaient dans la famille.
Les compagnons de Saint-François.
Oui.
Il y avait les compagnons de Saint-François.
Les compagnons de Saint-François.
Ça existe toujours.
Les ouvriers de Saint-François, à Toulouse.
Vous pouvez voir, ça existe.
Les ouvriers de Saint-François, tu sais, avec Jean-Louis Gallo.
Ah oui.
Je ne sais pas s'ils sont reconnus.
Non, ils font partie de la famille franciscaine, mais je ne crois pas qu'ils aient de reconnaissance canonique.
Oui.
Mais ils sont. Ils sont dans tout le rassemblement franciscain, ils sont là, ils sont représentés.
Oui. Et il y en a encore d'autres.
Il y a un groupe qui s'appelle Arbre aussi à Toulouse.
Il existe toujours.
Avec des amis franciscains. Ouais.
La revue existe toujours, Arbre.
Oui, mais là, le groupe s'appelait comme ça.
Qui s'appelle Arbre.
Il a pris le nom de la revue.
Existe toujours.
La revue Arbre existe toujours. Ouais.
Ça. Est-ce que nous pouvons dire que notre famille est comme cela? C'est une question, ça. parce qu'en fait, on a un passé qui est beaucoup plus profond, on a des statues qui sont là. Il y a une question quand même de reconnaissance de la famille de la Sainte Trinité. Il y a une question, moi, je trouve. Est-ce que l'avenir permettra peut-être un jour de... Moi, je ne sais pas, de pouvoir... non, pas régler cette question, mais... C'est quand même... Moi, je veux du côté capucin. Si on parle de la famille de la Sainte Trinité, ben c'est pas une reconnaissance, quoi. Ce serait plutôt l'ignorer que de le reconnaître. Bon, on peut vivre sans reconnaissance, mais enfin, quand on a une reconnaissance canonique, quand on appartient à l'Église, quand on a la même spiritualité, c'est quand même normal de penser que peut-être à l'avenir un événement se fera et que on pourra dire ben oui, la famille de la Sainte Trinité est une branche de femme de appartient pleinement à la famille. Moi j'ai pensé à ça au moment où on est en train donc de célébrer ces 30 ans pour dire voilà 30 ans et où on en est.
Et on a été reconnu au départ par un évêque dominicain.
Alors autre chose, à cause de ces 30 ans et de toute cette richesse que nous avons vécue ensemble et qui reste encore dans nos archives, à cause de ça, est-ce qu'on ne pourrait pas consacrer un numéro spécial pour fêter cet événement? Ce serait peut-être l'occasion pour chacun de nous d'exprimer ce que notre famille lui a rapporté, l'a aidé à grandir dans le Christ. Hein, c'est une... Je ne sais pas, peut-être quand on discutera ensemble, peut-être on pourra poser cette question. La deuxième chose qui caractérise notre famille, c'est qu'elle est née quand même, elle est née dans l'ermitage. Ça, c'est quand même, on peut pas l'oublier, quoi, ça. Elle est née dans l'ermitage, et que, d'une certaine façon, c'est peut-être trop dur que c'est comme deux branches d'un même arbre, mais de toute façon, on ne peut pas dissocier l'ermitage qui a été à la naissance et puis la famille de la Sainte Trinité. Elle a donné, et c'est là que la famille de la Sainte Trinité, pour moi, a donné à l'ermitage quelque chose de très important. Elle lui a donné une ouverture au monde. Alors que l'ermitage bénédictin, est un ermitage fermé, disons, hein, avec le dernier quatrième vœu de stabilité. Voilà. L'ermitage franciscain a été marqué par François comme une ouverture par son charisme et d'être aussi en même temps au monde. Et par l'effet des circonstances, l'ermitage de la Sainte Trinité, eh bien, il est né, il s'est réalisé aussi à un certain moment, à travers l'histoire, par un projet œcuménique des relations avec les frères franciscains anglicans de la Société de Saint-François. Ça aussi, c'est quelque chose qui est au cœur de notre famille, enfin, de, 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 de l'ermitage, mais qui en même temps déborde ce, puisque l'ermitage est lié, est lié avec la famille de la Sainte Trinité. Le projet œcuménique qui était à l'origine de l'ermitage a pour se réaliser, si on regarde l'histoire, il s'est réalisé avec, pas en lui-même, enfermé en lui-même, mais il s'est réalisé avec vous au tout début de la Cassine. Il a grandi avec vous. Ça veut dire qu'à la fois, il a profité de votre présence laïque pour l'ouvrir. Notre ermitage franciscain capucin, si on veut, hein, puisqu'il s'est réalisé dans la famille capucine. S'il n'avait pas eu ça, il serait enfermé. Et je trouve que, en relisant un peu l'histoire, il a reçu un don extraordinaire de la famille de la Sainte Trinité. Et en même temps, la famille de la Sainte Trinité a profité de la prière de l'ermitage. C'est-à-dire qu'il y a entre l'un et l'autre quelque chose qui les unisse l'un et l'autre. Et c'est ça que j'ai ressenti en pensant aux 30 ans d'histoire commune où on a bénéficié ensemble de deux aspects du charisme de François, un charisme d'ouverture et puis un charisme en même temps aussi de présence au Christ directement, donc de vie contemplative. Cette vie contemplative a été quand même, dès le départ, on a fait beaucoup de travail pour grandir dans cette vie contemplative, et là, il y a eu quand même un apport important des ermitages. La petite règle que François avait écrite pour les ermitages a donné son souffle, si on veut, pour apporter à la famille le côté de la prière. Et en même temps, la famille a ouvert tous les pèlerinages que nous avons faits ensemble. Tout ce que nous avons vécu ensemble, de retraite, de choses comme ça, ce n'est plus l'ermitage par lui-même, et ce n'est pas non plus la famille sans cette dimension-là. Voilà ce que moi j'ai ressenti. Hein. Alors on peut poser maintenant la question qu'on a posée dans la question de la famille franciscaine dans le... Oui, je reprends les notes, là, comme j'ai dit tout à l'heure. La vie... Oui, s'il n'y avait pas eu cette dimension, si la famille, pour un événement dont, là, dès le départ, là, vous rappelez les premiers là, qui sont venus, là, s'il y avait pas, si vous n'étiez pas venus, si vous n'étiez pas, je pense que moi j'aurais eu une autre vie. Franchement, je crois que je me serais enfermé davantage dans l'ermitage et que la famille a été pour moi une aide pour une ouverture plus grande et qui réalise beaucoup plus d'ailleurs le message de François qui n'est pas bénédictin. Et là, j'ai une action de grâce là-dedans. La vie franciscaine, ben, elle est difficile à vivre parce que, parce qu'elle unit ces deux composantes de la présence au monde et de la vie, contemplative. Le plus facile, c'est de ne voir qu'un côté. Et il faut faire attention parce que je vois, on peut par exemple considérer l'ermitage franciscain comme étant le côté du retrait complet du monde. Ou alors, ça peut être encore en quoi l'ermitage peut aider la famille de la Sainte Trinité. Moi, je crois qu'il doit rappeler quand même la permanence de la vie de prière. Bon, vous l'aviez en vous-même, mais c'est quand même quelque chose d'avoir dans une famille dans laquelle, au fond de cette famille, il y a toujours ce rappel de la vie de prière, de la vie de la vie mystique. Parce que combien tous les travaux qui ont été faits tout au cours des années, c'est pour nous faire unir davantage au Christ, donc une vie mystique, que s'il n'y avait pas ça, on pourrait aussi être dominé par les préoccupations du monde. Là, l'ermitage a apporté vraiment le don de sa propre vocation, qui est une vocation mystique d'union à Dieu. Elle l'a apporté à mon ami de la famille de la Sainte Trinité. Et en même temps, cette famille a reçu, l'ermitage est reçu d'elle, la vie concrète, la vie de communion, la vie de travail, la vie avec tous les événements. Il y a eu, à mon avis, une unité au cœur même de notre famille franciscaine, de ces deux éléments essentiels et qui sont l'Évangile, c'est-à-dire la présence de Jésus dans le monde, en même temps que un Jésus qui dit « Je vous unis au Père, Père ». Donc, il y a ces deux composantes de l'Évangile que François a vécu et qui sont quand même vivants au cœur même de notre famille. Voilà ce que... Alors, l'histoire que nous allons... Bon, voilà ce que j'ai médité pour célébrer ces 30 ans, quoi. C'est 30 ans. Et c'est pour rien. Et c'est important peut-être de refaire effectivement l'histoire franciscaine à cause de tout ça aussi. Le sujet que nous avons pris de l'histoire franciscaine va nous aider à mettre... C'est ce que nous venons de dire dans un grand, peut-être un plus grand espace, qui est toute l'histoire de la famille franciscaine. Alors, quand on fait de l'histoire, c'est jamais très facile parce qu'il faut passer par des dates, mais essayer d'en ressortir le sens, quoi. C'est ça le plus important. Mais malgré tout, on ne peut pas ressortir le sens si aussi. On ne voit pas d'une façon très concrète comment les événements amènent l'histoire, conduisent l'histoire. Et c'est un historien n'est pas d'abord quelqu'un qui ne fait que relever les événements, mais qui en même temps essaie d'en tirer le sens. Alors ça, ce sera peut-être bien sûr le plus difficile. Mais voilà cette histoire qui est l'histoire avant tout. Un dernier mot quand même, c'est l'histoire de la sainteté. C'est vraiment l'histoire de la sainteté. C'est absolument extraordinaire quand on regarde avec un peu de retrait, de distance, l'événement de la sainteté d'un homme et que ce charisme a donné tant de fécondité. Et bien sûr, François a eu des grâces particulières, mais c'est aussi frère François, c'est aussi un pauvre, c'est aussi un homme. Je vais dire, on ne va pas le ramener à nous-mêmes, parce qu'on reconnaît sa sainteté, on reconnaît cela, mais c'est un bonhomme. C'est ce qui veut dire que ben, à travers Saint-François, notre vie aussi a cette profonde, est incarnée aussi dans le Christ, avec cette profondeur de fécondité. Et la fécondité, elle passe par la sainteté. Et c'est en ce sens-là, si on veut, que on peut dire que l'ermitage uni à la famille, enfin, qui est au cœur de la famille. Moi, j'ai vraiment cette vision que l'ermitage est au cœur de notre famille, de la Sainte Trinité. Et alors, qu'il apporte ce côté par la prière du rappel de la sainteté. C'est le charisme de François, c'est ce qui évite de se diluer dans de l'action, quoi, dans du faire, et qui ramène toujours aux côtés les plus essentiels, aux côtés de l'être, c'est-à-dire, comme dit Saint Bonaventure, qu'il a sous les mots, c'est l'amour. C'est l'amour du Christ, avant toute chose. Et il définit un peu comme l'histoire de le charisme franciscain à travers François. Il le définit par l'amour. François qui est, disant, par amour pour celui qui nous a tant aimé d'amour et qui en est mort d'amour. Il n'y a que fondamentalement que l'amour. Peut-être que c'est la grâce que, après avoir, qu'on peut demander à travers des travaux intellectuels, bien sûr, que surgisse cette conscience de que nous sommes vraiment appelés, mais nous l'avons, nous le savons, et que le Saint-Esprit nourrisse en nous le charisme de l'amour, celui qui a donc donné sa vie par amour, pour ne pas être pauvre amour. Voilà, nous essaierons demain d'essayer de relire l'histoire, de recevoir aussi à travers l'histoire, bon, via l'histoire, mais c'est très bien parce que Jean-Louis va nous donner ce qui est la pointe même de l'histoire, c'est-à-dire concrètement, à nouveau, le message mystique que renferme notre famille, à travers aussi un charisme, celui de Comfield. Et savoir que, ben, d'une certaine façon, nous sommes les héritiers, nous, maintenant, de ce charisme que nous avons aussi. Si on ne peut pas en témoigner directement, si ce n'est pas notre travail, au moins en le vivre. Voilà pour l'introduction. Alors, ce que je voudrais faire comme dernier mot d'introduction, si je me mets à remercier les uns les autres, on oublie toujours quelqu'un quand on remercie. Mais je voudrais quand même remercier Brigitte. Parce que si Brigitte ne m'avait pas aidé, je ne serais pas ici. on a fait ça ensemble, mais un grand, grand, grand merci à Brigitte.